Comme je l'ai signalé dans le résumé de cette intervention, on sait que l'une des préoccupations actuelles de la sémiotique concerne le passage de l'énonciation verbale à l'énonciation visuelle et à d'autres formes d'énonciation. Donc, de manière plus générale, on se demande en sémiotique dans quelles conditions il est possible de faire migrer le concept d'énonciation depuis la linguistique vers les langages non-verbaux. Donc, en revenant sur cette problématique, je souhaiterais développer ici l'hypothèse d'un substrat d'opération sous-jacente à l'énonciation qui commanderait les diverses formes d'avènement du sens, qu'il s'agisse de sa manifestation dans la parole en situation ou de son surgissement dans la perception, en établissant un lien direct en fait, entre énonciation et perception. Je propose d'appeler ce substrat la dimension haptique de l'énonciation. En explorant cette dimension, j'aborderai d'une part la question des rapports entre énonciation et perception et d'autre part celle de la transversalité des opérations énonciatives au langage verbal, musical et visuel, c'est-à-dire aux activités de voir et d'entendre, sachant que l'activité d'entendre concerne aussi le langage verbal, parce que je vais montrer que la prosodie a un statut essentiel dans l'appréhension du langage verbal. Je rappellerai d'abord que dans l'histoire de la philosophie, d'Aristote à Merleau-Ponty et pour la sémiotique à Greimas dans l'ouvrage de l'imperfection, le toucher a été considéré comme le fondement des autres activités perceptives et notamment de la vision. Le toucher serait spécifié dans la main, mais il serait distribué dans toute la chair et constituerait ainsi comme le socle de la sensibilité corporelle. En tirant les conséquences de l'apologie du toucher de Husserl, Herman Parrett, qui est un sémioticien belge, il remarque dans un livre qui s'intitule « Épiphanie de la présence » que pour cette tradition de pensée, le toucher est la condition même d'existence du corps propre, car les sensations de tous ordres doivent coïncider avec celles de type tactile pour participer aux configurations proprioceptives, c'est-à-dire à celles qui concernent la représentation du corps propre. Donc le tactile serait une sorte de passage obligé pour aller d'une perception à une autre et pour avoir une représentation générale du corps. Dans le visible et l'invisible, Merleau-Ponty confirme ce rôle paradigmatique du toucher. En observant que le regard enveloppe, palpe, épouse les choses visibles, il se demande « Qu'est-ce que cette prépossession du visible, cet art de l'interroger selon ses vœux, cette exégèse inspirée ?» Et il conclut « Nous trouverions peut-être la réponse dans la palpation tactile où l'interrogeant et l'interrogé sont plus proches et dont, après tout, celle de l'œil est une variante remarquable. » Merleau-Ponty reconnaît ainsi dans le toucher et en particulier dans le toucher du toucher, dans le toucher du toucher, le modèle est la source d'une perception réflexive. Le voyant lui-même visible, c'est une figure centrale de la phénoménologie merleau-pontienne, donc c'est le voyant qui en même temps est vu par d'autres sujets, mais ce voyant lui-même visible, il est préfiguré par l'activité de la main droite qui touche la main gauche en train de palper les choses. Donc, pour Merleau-Ponty, la réflexivité trouverait son origine, son fondement dans le toucher, dans la faculté du toucher, et notamment le toucher de la main, et de la main touchant la main. Donc, suivant cette intuition, c'est d'abord à travers ce pli du sensible introduit par la perception tactile que j'essaierai de rattacher cette dernière à l'énonciation en acte. Merleau-Ponty lui-même constate que la réversibilité caractéristique de la chair existe également dans d'autres domaines. On arrive ainsi au problème central de la réflexivité, qui est le point à partir duquel, d'abord, je vais essayer de rattacher le toucher à l'énonciation. Donc, est-ce que la réflexivité serait le noyau de toute énonciation qui se traduit et s'exprime de différentes manières selon les langages? C'est une question que je me pose. Merleau-Ponty affirme, comme il y a une réflexivité du toucher, de la vue et du système touché-vision, il y a une réflexivité des mouvements de phonation et de l'ouïe. Donc, comme le sujet qui se touche en train de toucher, on sait que celui qui parle entend de l'intérieur sa propre voix, et celui qui émet une trace visible regarde son propre tracé. Donc, ce phénomène réflexif élémentaire me semble justement ouvrir la voie pour l'exploration non seulement de la perception comme acte énonciatif, mais surtout de l'énonciation comme possible prolongement de la perception et en particulier de la perception tactile. Au plus près du geste, l'énonciation verbale et l'énonciation visuelle trouveraient leur source dans la faculté auto-perceptive du toucher haptique. J'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par haptique. Donc, le débrayage, je rappelle que le débrayage, c'est l'opération énonciative par laquelle le sujet de la parole projette hors de lui les catégories sémantiques du non-je, non-ici, non-maintenant, c'est-à-dire quand quelqu'un parle, il projette un « il », un « ailleurs », un « alors ». Donc, le débrayage énonciatif est d'emblée un débrayage somatique, puisque quand « je » dit « je » ou quand « je » dit « il entend sa voix ou quand il l'écrit, il regarde son propre tracé. Donc c'est en entendant sa voix ou en regardant son tracé que « je » projette un « il » ou se projette comme un « il ». À ce niveau, l'énonciateur peut n'être que l'énonciateur lui-même ou bien un sujet qui assume l'écoute ou l'observation comme une sorte de nouvelle énonciation. Donc, je voulais renvoyer à ce propos aux premières pages d'un ouvrage, mais je vais juste citer quelques extraits parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un ouvrage qui s'intitule « La maison et l'escargot » de Raoul Dora, qui est un sémioticien argentin-mexicain. Et ces passages mettent en évidence le caractère énonciatif et réflexif de la proprioception. Donc, je citerai juste les dernières lignes lorsqu'il dit, en fait, c'est une auto-exploration corporelle qui s'accomplit, et il dit, gisant, immobile, mon corps s'est tendu comme s'il se guettait lui-même. Ou c'est moi qui guette, ou c'est moi peut-être le guetter. Donc, on constate que cette auto-découverte étonnée produit un dédoublement qui rend possible l'acte énonciatif. C'est-à-dire, en se découvrant comme un autre, je est susceptible de passer à l'acte de parole. Et cette autodécouverte culmine dans une exploration proprement tactile. Donc j'observe la silhouette, etc., de ma main droite qui commence à se dégager, que fait ma main, je ne la vois plus, etc. Donc c'est une exploration tactile qui se concentre dans la main. Comme ces extraits le montrent, on peut considérer que le dédoublement du sujet percevant trouve sa source dans la réflexivité de la chair en tant que toucher du toucher, développé par celui qui se touche en touchant. Ou comme dirait Merleau-Ponty, en train de toucher les choses. La main droite qui touche la main gauche, en train de toucher les choses. Or, l'ouïe et le regard, non seulement empruntent à la tactilité leur propriété réflexive, ce qui était le premier point que je voulais développer, donc la réflexivité comme point de contact entre l'énonciation et la tactilité, mais l'ouïe et le regard peuvent être considérés eux-mêmes comme des manifestations de la tactilité à proprement parler. Donc Maurice Pradine, lui aussi, est-ce que je l'ai mis là ? Non, mais ça viendra. Donc Maurice Pradine, lui aussi, et avant Merleau-Ponty, avait soutenu et radicalisé le fondement tactile de toute perception, le toucher étant le premier sens de la distance. Donc Pradine montre que l'ouïe est touchée par les vibrations aériennes ou dans le cas de l'écoute de soi par les vibrations corporelles, tandis que le regard est frappé par la lumière que reflète les corps solides. L'écart entre le sentant et le senti, qui chez Merleau-Ponty devient la source de l'autoperception, est également suggéré par Pradine, pour qui toute perception non réflexogène, c'est-à-dire toute perception qui ne produit pas un acte réflexe immédiat, est par définition une perception de la distance. C'est-à-dire que quand je perçois quelque chose qui ne me fait pas réagir immédiatement, il y a un écart entre la réaction possible, ou qui viendra après, ou qui ne viendra pas, et l'acte de toucher l'objet. Donc il y a cette distance qui rend possible l'auto-perception. Donc à la différence des sensations réflexogènes, le rôle de la perception, à proprement parler, est de déclencher les représentations des impressions, donc d'imaginer ce que ça ferait si cette impression nous faisait réagir, et de permettre, grâce à cet écart entre la stimulation et la réaction, l'élaboration d'une sorte d'avis qui déterminera, dans ce retour du corps percevant sur lui-même, le mouvement de locomotion correspondant. Donc c'est ça que dit Pradine. Quand on est touché par une sensation non réflexogène, il y a cet écart qui permet une réflexion et un avis sur le mouvement de locomotion qui suivra ou pas. Donc le réflexogène chez Pradine s'oppose au réflexif. En distinguant de la sorte les impressions réflexogènes des impressions proprement perceptives, Pradine affirme « C'est qu'autre chose est de recevoir une impression qui demande une réponse immédiate sous peine de dommage, autre chose de recevoir un simple avis sur l'éventualité ou l'imminence de telles impressions et sur la situation locale de l'excitant qui peut les provoquer. » Donc, pour étudier le substrat haptique de l'énonciation, on doit, me semble-t-il, se concentrer sur sa dimension quasi-corporelle, c'est-à-dire dans la manière dont le corps, en se découvrant, s'énonce, et dans la manière dont le sujet, en s'énonçant, se découvre comme un corps. C'est-à-dire que le sujet, lorsqu'il s'énonce, il s'entend parler, il entend sa voix, et il découvre sa source corporelle. Il me semble que l'étude de l'acte énonciatif du point de vue de la tactilité, et plus précisément de la dimension haptique, pourrait finalement jeter une lumière sur des problèmes tels que la temporalité dans la peinture abstraite, dans le devenir d'une mélodie ou dans le déroulement prosodique de la parole. C'est ce que j'essaierai de démontrer. Mais pour ce faire, il est nécessaire d'abord de distinguer le tactile au sens général de ce qu'on envisagera comme la fonction haptique, une fonction qui, trouvant dans le tactile son domaine de manifestation privilégié, ne lui serait pas pour autant exclusive. C'est-à-dire que l'haptique serait une partie du tactile, une division du tactile. Donc cette distinction entre le tactile et l'haptique doit permettre de généraliser l'haptique, indépendamment de la position adoptée face à l'hypothèse, à certains égards discutable, du caractère fondateur du toucher et de sa préséance par rapport aux autres sens. En critiquant ce qu'il appelle l'aptocentrisme en philosophie, Hermann Parrett oppose au toucher de la main qui caresse, objet privilégié de la phénoménologie, le choc de la touche, césure abrupte où le tactile atteint ses limites. Or, je dirais que c'est précisément entre ces deux pôles, représentés respectivement par la touche et par la caresse, que se situe la perception haptique. Donc l'haptique se situerait entre la touche et la caresse. La perception haptique est définie en neurosciences cognitives comme la stimulation de la peau par des mouvements actifs d'exploration de la main lorsqu'elle se trouve en contact avec un objet. Plus précisément, suivant les propos de Pradine, je définirai l'haptique à partir de trois traits fondamentaux. Du grec haptikos, c'est-à-dire capable de toucher, l'haptique tirerait premièrement cette capacité à toucher d'un écart instauré entre l'impression reçue et la réaction subséquente. C'est dans cet écart, c'est pour ça que la touche ne ferait pas partie de l'haptique, parce que c'est dans cet écart, dans cette distance fondatrice, que le toucher en tant qu'activité exploratoire non réflexogène peut se déployer en donnant naissance à l'haptique proprement parlée. Donc cela signifie que la touche, bien que d'ordre tactile, est exclue de l'haptique en raison de son caractère hautement réflexogène. Deuxièmement, et comme conséquence de cet écart entre l'impression et la réaction, l'haptique se caractériserait par la réflexivité, entendue comme un retour sur soi permettant la représentation de l'imminence ou non des réactions du corps percevant et l'élaboration d'un avis à l'égard de son rapport avec l'objet perçu. Donc la réflexivité serait le deuxième trait. Troisièmement, cette représentation qui, selon Pradine, détermine le mouvement effectif qui suit la perception du stimulus, serait une représentation éminemment motrice et préhensive. C'est là ma troisième hypothèse concernant l'haptique, essentielle pour la suite de mon développement. En effet, comme le même auteur le soutient, Pradine, si la perception tactile rend possible la connaissance de l'espace, c'est parce qu'elle permet à l'être vivant de se représenter le mouvement d'attraction ou de répulsion qu'il associe à l'excitant. Je cite, vous l'avez devant vous, « La première et originelle connaissance de l'espace ne peut jamais être que le fruit d'un travail de l'esprit qui, à l'occasion d'un contact inaffectif, c'est-à-dire non réflexogène, et pour donner un sens à ce contact, se représente, à travers l'expression reçue, le mouvement dirigé vers sa cause, c'est-à-dire le mouvement qui resserre le contact avec l'excitant. » Donc, dans ce sens de Pradine, on peut considérer que l'haptique, en tant qu'il anticipe le contact avec l'objet, est la fonction par excellence de l'appréhension, dans les deux sens du terme. Désirer l'objet pour le prendre, appréhension, ou craindre d'avoir à le prendre, c'est-à-dire appréhension de l'objet aussi. Donc, à l'opposé de la touche, la caresse s'approcherait des limites de l'haptique dans la mesure où elle suppose une reconduction incessante du désir de préhension et par conséquent la disparition de la visée exploratoire du toucher haptique. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de visée exploratoire ou plus de visée préhensive, il n'y aurait plus de toucher haptique, à mon avis. Donc, ayant défini de la sorte la fonction haptique, je tenterai de montrer d'une part comment elle se rapporte à l'acte énonciatif et d'autre part comment, loin de se limiter au tactile, elle circule entre les différents ordres sensoriels et notamment le visuel et l'auditif. Puisque le concept d'énonciation provient de l'étude du langage verbal en linguistique, je ferai maintenant un petit détour par ce dernier, donc par le langage verbal, pour montrer comment le substrat haptique de l'énonciation peut assurer la migration de ce concept vers les langages visuels et musicaux en assurant leur transversalité. Donc, dans un ouvrage dont le titre me semble particulièrement éclairant, Plaisir poétique et plaisir musculaire, André Spire suggère que le geste corporel originellement associé au langage, y subsiste comme un accompagnement interne. Plus encore, le langage sonore ne serait qu'un prolongement du langage des gestes, un langage de gestes moins ample et souvent peu visible de toute la partie de notre corps qui transforme les mouvements de notre appareil respiratoire en son. Ainsi, selon Spire, la création poétique consisterait en l'élaboration d'une esquisse motrice. Et le mouvement général du poème, situé entre le musical et le gestuel, serait le substrat de sa signification même. Le même auteur évoque à ce propos l'expérience de Paul Valéry, que vous connaissez sans doute, qui raconte dans Poésie et pensée abstraite que le cimetière marin est né en lui d'abord comme un pur rythme décasyllabe avec une césure entre le quatrième et le sixième temps. Ce n'est que plus tard que cette forme rythmique vide s'est remplie de mots et de sens. Quant au récepteur, il ne peut que reproduire cette motricité, car, au dire de Spire, lire, c'est prononcer, et entendre, c'est prononcer aussi. L'auteur propose alors d'appeler rythme le mouvement inhérent à la parole, et geste rythmique l'acte par lequel le sujet produit ou reproduit ce mouvement. De la théorie de Spire, je retiendrai premièrement la conception rythmique du langage, qui le rapproche très clairement de la musique. Donc, dans cette perspective, l'élément fondamental du langage serait non pas la syllabe, mais la phrase, une unité sonore que l'auditeur perçoit en amont de sa signification conceptuelle. Donc, c'est les traits suprasegmentaux ou la prosodie telle qu'on l'étudie en poétique. Sans emprunter la démarche physiologique de Spire, c'est sur la base de ce principe phrastique et non syllabique qu'Henri Méchonic construit sa théorie du rythme en définissant le groupe rythmique comme une unité grammaticale et phonétique qui remplit des fonctions dans la syntaxe du discours et en structure le continuum phonique. Cette conception rythmique m'intéresse dans la mesure où elle postule un mode d'inscription de la subjectivité dans le langage au plus près de l'acte énonciatif. À ce propos, des sons hémichoniques définissent le rythme justement comme l'organisation du mouvement de la parole par un sujet. De ce point de vue, le rythme serait un marqueur énonciatif au même titre que les indices de personne ou les déictiques spatiaux et temporels. Ce postulat conduit les mêmes auteurs à développer une méthode minutieuse et efficace de notation du rythme dans le langage à partir de l'identification de formes d'accentuation de type syntaxique, concernant les mots sémantiquement pleins, prosodique, concernant les attaques de groupe et les allitérations, et métrique, concernant les frontières de maître. Deuxièmement, je retiendrai de ces propos de Speer la possibilité d'associer le mouvement rythmique de la parole, et j'ajouterai bien sûr de la musique, à une impulsion de caractère moteur ou gestuel. L'oreille est un organe moteur d'audition, affirme Speer. Or, pour le même auteur, la motricité associée au langage suppose la réalisation de mouvements musculaires effectifs et localisés, aussi bien gestuels que physiologiques, externes qu'internes. Donc c'est l'acte de fonation qui produit des gestes. Mais dans ma perspective, dans notre perspective, on peut supposer que cette gestualité primordiale s'accomplit justement dans l'écart reconnu par Pradin entre l'impression reçue et la réaction subséquente. Il s'agirait donc avant tout d'un mouvement virtuel, un mouvement imaginé ou projeté ou représenté, et représenté justement sous la forme d'un aller vers ou d'un revenir à. Cette impulsion, qui ne saurait se réduire à des phénomènes d'ordre exclusivement phonique ou plus généralement physiologique, relèverait de la motricité profonde qui se trouve à l'œuvre dans l'acte de perception. Cette motricité accompagnerait le déroulement du discours, aussi bien verbal que musical, en permettant à l'énonciateur comme à l'énonciataire d'identifier, mais surtout d'éprouver intérieurement ces temps forts, ces coupures, ces redoublements, ces amenuisements ou ces reprises. Suivre le fil du discours, c'est épouser somatiquement son devenir rythmique, le geste rythmique apparaissant dès lors comme le corrélat corporel de ce système complexe de tension et de détente qui constitue le rythme. Or, afin de suggérer le caractère éminemment haptique de ce geste rythmique impliqué par l'énonciation en acte, je ferai appel à Jean Dudine, c'est un critique et théoricien du début du XXe siècle, par ailleurs connu d'André Speer, mais ses travaux sont complètement oubliés aujourd'hui. Donc dans L'art et le geste, c'est l'un de ses ouvrages majeurs, Udine explore le rapport entre les différentes formes artistiques et le geste en tant que puissance motrice ou réflexe plastique. C'est en interrogeant les mécanismes perceptifs à l'œuvre dans cette motricité commune aux différents langages que Udine parvient à identifier le toucher non seulement comme l'intermédiaire entre les sens, mais comme le fondement de l'ensemble des transformations somatiques qu'il appelle le geste. Il reconnaît deux types de toucher impliqués dans le geste artistique, le toucher mouvement et le toucher pesanteur. Il affirme ainsi, suivant une loi d'oscillation constante, tous les arts alternent historiquement de la prédominance du toucher mouvement, ligne et rythme, à la prédominance du toucher pesanteur, coloris et harmonie. Si l'hypothèse historique d'Udine est discutable, l'opposition par lui proposée entre toucher pesanteur et toucher mouvement, donc cette opposition est susceptible d'éclairer le fonctionnement du geste rythmique qui accompagne l'énonciation verbale et musicale en mettant en évidence son substrat haptique. J'ai défini l'haptique comme l'opération par laquelle la perception projette, dans l'écart entre l'impression et la réaction, une représentation motrice qui constitue une appréhension, appréhension de l'objet perçu. Donc, une appréhension avant l'appréhension véritable. Donc, dans ce cadre, les considérations de Jean Dudine permettent de préciser encore les formes de l'activité haptique auxquelles on peut attribuer une certaine prégnance énonciative. En effet, On sait que le domaine de l'haptique comprend de nombreux mécanismes. C'est le frottement latéral qui nous renseigne sur la texture de l'objet, le soulèvement qui nous renseigne sur son poids, la pression sur sa dureté, le contact statique sur sa température, l'enveloppement sur son volume et le suivi dynamique des contours sur sa forme globale. Or, pour Dudine, le toucher est, avant tout, le sens du poids des choses, et la matière artistique obéit inéluctablement aux exigences de la pesanteur. Cette primauté accordée au toucher pondéral, que j'associerai au toucher préhensif, relève sans doute de sa fonction de clôture dans la perception des formes qui se déploient dans le temps. Comme le même auteur Dudine le remarque, la légèreté qui fuit la clôture résulte de l'espacement progressif et constant des cadences, de la perpétuelle émancipation de ces chutes fatales. Entre ces points de chute où la forme se pose, une attente se produit, une attente active, car en quête de cette forme, qui serait corrélée à la visée exploratoire du toucher-mouvement. Dudine affirme à ce propos, « Non seulement les épithètes motrices de rythme et de mouvement se sont attachées par le consentement universel aux formes des ouvrages plastiques, des phrases musicales et littéraires, mais la puissance attractive de la tonalité, les limites naturelles des vers et des stances, la densité des vocables révèle encore à qui le veut comprendre leur véritable nature par cet admirable terme de cadence, cadere, tomber. » Ainsi, il est possible de considérer que de même que les cadences en musique sont comme des retours ou des chutes de la ligne mélodique vers les centres tonaux de gravité, de même dans le langage verbal, les fins de groupe rythmique sont comme de retour de la parole vers son centre de gravité. La phase terminative de la phrase ou du vers culmine dans un geste préhensif et pondéral. C'est alors que l'on peut dire qu'on a saisi leur sens, un sens qui est avant tout rythmique. De leur côté, les variations accentuelles introduisent dans le déroulement du discours des saillances plus ou moins importantes et dessinent ainsi des contours que l'oreille parcourt comme la main explore les bords d'un objet pour en appréhender la forme. L'incoatif, c'est-à-dire tout ce qui marque le début d'une action, l'incoatif, invite à une exploration qui, par son caractère moteur et appréhensif, ne peut être qu'haptique. Le geste rythmique entreprend alors la quête tâtonnante du complément phrastique ou de la césure métrique qui viendra plus tard, plus loin, clôturer la phrase. Avant d'étendre ces remarques au domaine visuel, je suggérerais que, du point de vue de l'énonciation, le toucher préhensif et pondéral possède une fonction embrayante. Elle détermine un point de référence, un ici et un maintenant autour desquels s'organise le flux du discours. Et on sait que le mot même de maintenant fait référence au geste préhensif de la main qui tient ou qui saisit quelque chose. De son côté, le toucher-mouvement posséderait un caractère débrayant. Il rend possible l'émergence d'un ailleurs et d'un après qui constitue l'horizon de l'exploration. Le substrat haptique des opérations énonciatives fondamentales permet, me semble-t-il, de confirmer l'hypothèse d'Erotarasti, sémioticien de la musique, selon laquelle, en musique, tout débrayage au sens spatial, temporel et actoriel indique une formation de dissonance qui, à son tour, requiert une résolution ou un embrayage. Fin de citation. La dissonance en musique et la variation accentuelle en poésie posséderaient donc une fonction débrayante dans la mesure où elles configurent le dispositif de la visée haptique. Au contraire, la consonance et le retour de la métrique posséderaient une fonction embrayante en rendant possible la saisie. On comprend ainsi que le geste déictique n'est pas seulement la monstration ou la référence à l'objet dans l'ici-maintenant, mais aussi l'appréhension de cet objet à travers la clôture de sa forme. Maintenant, toucher des yeux. Avec Henri Maldinet, on entre dans la saisie phénoménologique post-merleau-pontienne. Dans l'esthétique des rythmes, Maldinet postule l'existence d'un rythme inhérent aux formes visuelles. Il remarque alors que l'acte d'une forme est celui par lequel une forme se forme. Il est son autogénèse. Fin de citation. Ainsi, les formes figuratives auraient une dimension intentionnelle représentative, celle de l'image, et une dimension génétique rythmique, celle de la forme à proprement parler. C'est dans cette seconde dimension génétique rythmique éminemment temporelle que j'essaierai de trouver les traces haptiques de l'énonciation en acte. Le petit Robert définit la forme comme l'ensemble de contours d'un objet, d'un être, résultant de la structure de ses parties et le rendant identifiable. Cette définition invite à associer la forme à la ligne et en particulier à ce type de ligne qu'est la ligne contour. Si toutes les formes n'ont pas de contour manifeste, toute forme, en revanche, trace son propre contour. Or, comme Denis de Bertrand le montre dans l'article « Antimème du visible autour de la ligne », cette dernière, la ligne, est habitée par une tension qui, avec le paramètre de la direction, fait surgir le mouvement en tant que manifestation de la gestualité du tracé. Entité dynamique, la ligne raconte, exprime, agit. Dans le cas particulier de la ligne contour, considérée comme un parcours, elle me semble en partie responsable de la dimension rythmique des formes dont parle Maldiné. Dans sa successivité, la ligne contour raconte la genèse de la forme taillée sur un fond. Le même philosophe identifie deux sortes de rythmes qui, d'une manière générale, déterminent le pouvoir-être artistique. D'une part, un rythme voué à la fermeture et au cadrage, et projetant un centre autour duquel s'organise l'ensemble des éléments, et d'autre part un rythme ouvert qui place le centre en dehors du cadre et qui invite le spectateur à entrer dans la danse. J'ajouterai que ce rythme ouvert peut impliquer un conflit entre la forme et le fond, entre la ligne et la masse. En revenant à la problématique qui m'intéresse, on peut considérer que la sensation visuelle anticipe la sensation du toucher, voire c'est prévoir l'appréhension tactile. De ce point de vue, la forme close, achevée, aspectualisée par le terminatif, supposerait une saisie ou une préhension d'ordre haptique. Par exemple, Wolflin remarque que dans le style linéaire du régime classique, je cite, « le contour d'une figure, tracé d'une ligne continue et assurée, garde encore en lui quelque chose de cette palpabilité matérielle. » Et il ajoute, l'opération accomplie par l'œil ressemble à celle de la main qui palpe l'objet selon les contours. Fin de citation. En revanche, on peut supposer que la forme ouverte, aspectualisée par l'incoatif et par l'imperfectif, c'est-à-dire le non-achevé, est corrélée à une exploration haptique placée sous le signe du toucher-mouvement. Dans ce cas aussi, l'activité préhensive aurait un caractère embrayant. Elle détermine l'ici et le maintenant d'un regard qui trouve dans la forme close un point d'ancrage. Quant à l'activité liée à l'exploration dynamique, elle projetterait l'observateur vers un ailleurs et un après où la forme serait potentiellement achevée. Mais les fonctions de la ligne, évidemment, ne se réduisant pas au contour, il est possible de reconnaître ces variations tensives comme des marqueurs haptiques de l'énonciation, indépendamment de son rapport à une forme dont elle serait l'enveloppe. En observant que la ligne manifeste dans son devenir le geste dessinant, la présence de la main qui va la tracer, Denis Bertrand montre que la courbe et la droite convoquent par leur configuration même des investissements passionnels et axiologiques divers. Je cite, « les événements de la ligne droite ou de la ligne brisée sont dictés par les extrémités, par les pôles entre lesquels elle est tendue, par ses points d'interruption. » Elle relève donc, dans son intensité plastique, du régime des surcontraires. La radicalité et la dureté des valeurs extrémales en découlent. Quant à la ligne courbe ou sinueuse, les événements dont elle est le siège sont dictés par ses points d'inflexion, par ce qui se passe en son milieu, par sa gradualité. Elle rejoint, dans son extensité, le régime des sous-contraires. La nuance, la douceur, toutes les valeurs intermédiaires en découlent, qui sont déclinables en valeurs affectives d'empathie, de sensualité, du sentiment de la beauté. » Fin de citation. Puisque la ligne renvoie au geste qui la dessine, on peut considérer que ces avatars rendent compte des états sinon proprement pathémiques, du moins kinesthésiques de l'énonciateur. Et étant donné que le geste fondateur de la ligne relève d'une impulsion motrice de la main, il est aisé de reconnaître le fondement haptique de ces traces énonciatives. La ligne droite ou brisée suppose un tracé tendu, rapide et même décidé, car reliant sans déviation ni hésitation les points d'interruption. L'angle aigu de la ligne brisée convoque en outre la dureté de la pointe qui fait pression sur la surface cutanée. La ligne courbe, quant à elle, suppose un tracé relâché, un parcours haptique proche de la caresse. Des considérations semblables pourraient être développées à propos des autres composantes du texte visuel, telles que les masses ou même les couleurs. Sans pouvoir développer cette question, je signalerai seulement que dans l'ouvrage cité, Jean Dudine invite, je cite, « à découvrir le mouvement non seulement dans les lignes de l'architecture, mais encore dans sa masse, non seulement dans la cinématique picturale et musicale des arabesques et des durées sonores, mais encore dans la statique apparente d'une nuance délicate ou d'un timbre charmeur. » Fin de citation. Dans le domaine spécifiquement visuel, on peut dire que les masses sont la manifestation la plus évidente de l'action de la pesanteur sur la matière artistique. Par leur densité et par leur disposition topologique, les masses nous informent sur leur poids et sur la vitesse de leur chute. Elles tombent avec violence ou se posent avec douceur, elles cèdent à l'attraction de la gravité ou résistent suspendues. Elles font appel au sens musculaire de l'effort et nous renseignent ainsi sur la force et l'intensité de leurs gestes fondateurs. Quant au domaine chromatique, Merleau-Ponty remarquait que la couleur, avant d'être vue, s'annonce par l'expérience d'une certaine attitude du corps qui ne convient qu'à elle et la détermine avec précision. En amont de symboliques qui varient selon des paramètres culturels et psychologiques, on peut supposer que par leur contraste relatif, par leur vitesse de vibration ou par leur densité, les couleurs suggèrent des parcours cinétiques et sont perçues à travers des catégories tactiles comme lourdeur, légèreté, dureté, souplesse ou contraction, expansion. En faisant appel à cette tactilité fondamentale, Kandinsky affirme par exemple que le jaune est dur et piquant, le bleu doux et simple, le jaune est résistant contrairement au bleu qui se rapproche du velours. Enfin, convergence. Les remarques qui précèdent me conduisent à suggérer que l'énonciation verbale et musicale, aussi bien que l'énonciation visuelle, trouvent leur substrat phénoménologique dans l'activité haptique d'un corps qui énonce en même temps qu'il perçoit, ou qu'il perçoit sa propre énonciation, comme lorsque j'ai dit on entend sa propre voix, on regarde son propre tracé. De même que, comme le proposait Jean Dudine, les sensations des différents ordres pour communiquer ou pour être traduites les unes dans les autres doivent passer inévitablement par le canton tactile, de même, dans la théorie, la transposition de certains concepts du domaine verbal au domaine visuel et musical du point de vue de la perception me semble demander de manière implicite ou explicite le passage par le domaine haptique, conséquence ultime de la réflexivité définitoire de l'énonciation. Dans cette perspective, j'ai essayé de montrer comment certains gestes sonores ou visuels, dès lors qu'ils sont considérés du point de vue de leur hapticité inhérente, acquièrent une fonction imbrayante ou débrayante qui engage aussi bien le temps que l'espace. Ainsi, dans le parcours accompli par une ligne, le maintenant et l'après sont indissociables et d'un ici et d'un là-bas, l'espace se trouvant déterminé par le caractère temporel de l'acte énonciatif. Pareillement, dans le devenir du discours musical, les points de chute, pôles terminatifs des différents segments, instaurent un maintenant qui est aussi un ici. Donc, je citerai pour finir, je dirai quelques mots à propos des partitions graphiques dont Marina Malouli a parlé, du point de vue de la tactilité et notamment en particulier de la dimension haptique. Donc il me semble que dans la lecture des partitions graphiques, on peut prendre en compte de manière privilégiée peut-être le paramètre de la densité, en considérant la densité comme, comme la quantité d'informations assemblées dans une unité de temps ou d'espace. Donc, en commentant l'œuvre Projection, conçue en collaboration avec Joan Miró, Francis Mirolio observe que, je cite, « cette notion de densité est un des ponts les plus importants sur lesquels peuvent se rejoindre le visuel et l'auditif. » Et Xenakis, de confirmer cette intuition, en affirmant, je cite, que les masses d'événements sonores ou les masses d'événements visuels sont comparables du point de vue de la structure et même du point de vue du traitement. Xenakis suggère même que la densité se situe à un niveau plus fondamental que la succession, car, comme il l'observe, c'est par des variations de densité que les points s'alignent ou s'éteignent en masse. Dans ce sens, Pierre Schaeffer remarque que, je cite, « la durée musicale est fonction directe de la densité d'information ». C'est ainsi que dans certaines partitions de Ligeti, comme on le sait, les clusters sont représentés par des masses noires à épaisseur variable, indiquant par leur pente les changements de tessiture. Or, envisagée du point de vue de son substrat phénoménologique, cette notion de densité convoque évidemment le domaine haptique comme passerelle privilégiée et peut-être même nécessaire entre les cantons sensoriels concernés. Ainsi, l'haptique en tant que sens des densités, des masses et des textures, mais aussi en tant que sensorimotricité gestuelle associée à l'appréhension, pourrait être l'un des pivots fondamentaux des synesthésies mises en œuvre par les partitions graphiques. Car le parcours induit par les variations de densité d'un objet peut être considéré du point de vue de la perception comme une sorte de tracé qui engage la gestualité profonde du corps. C'est parce qu'une unité rythmique est une unité gestuelle qu'elle peut devenir une unité plastique. C'est peut-être dans ce sens que Pierre Schaeffer cherche, je cite, « à comprendre l'écoute comme une opération de préhension de la durée », si l'on entend le mot « préhension » dans son sens premier, tactile. Le sens de l'appréhension serait donc le point de convergence des différentes sources perceptives susceptibles d'appréhender des événements qui engagent le paramètre de la durée, qu'il s'agisse du parcours d'une ligne, de la vibration d'une couleur ou du déploiement d'un son. De leur côté, les qualités liées à la texture et à la densité à proprement parler émergeraient à partir des accidents de la force énergétique dont l'expansion peut être entravée par la présence d'obstacles ou bien favorisée par leur absence. C'est là. Pierre Schaeffer observe à ce propos que parler, je cite, « parler d'un son rugueux ou mat, velouté ou limpide, c'est comparer le son à une pierre, à une peau, à un velours, à une eau courante. » Fin de citation. Et il conclut plus loin, « la qualité de grain attachée à la matière sonore évoquait la surface d'un objet matériel, le sens tactile. Symétriquement, le critère d'allure attaché à la forme évoque le dynamisme de l'agent et le sens kinesthésique. Il permet d'apprécier la vivacité, l'énergie propre à l'objet. » Fin de citation. Donc pour conclure, je dirais que l'haptique, qui comprend au moins la gestualité sensorimotrice et la tactilité liée à l'évaluation des densités et des textures, donc l'haptique, globalement, serait une passerelle importante et même essentielle entre le son et les autres modes du sensible, et notamment le visuel. La dimension plastique du son, tout comme la dimension temporelle du plastique dans la visualité, relève peut-être de ce facteur essentiel. Je vous remercie.
Moi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. D'abord, une première, c'est qu'effectivement, dans une langue qui n'est pas la nôtre, mais qui est italien, l'espagnol, c'est vrai aussi, jouer la musique, ça se dit tocar.
Si, oui. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai.
Et c'est pas rien. Enfin, c'est pas rien. Ça, c'est une première chose. Puis il y a une deuxième, cette insistance sur le toucher. J'avoue que je ne m'attendais pas dans une séance sur, en parlant de sémiotique que ce soit ça qui arrive. Parce qu'évidemment, on a une vision de la sémiotique très proche de la linguistique pure et dure, c'est-à-dire plus proche des signes et des choses. Mais du coup, je me demande si ce n'est pas l'occasion d'avoir une réflexion. On entendait la semaine dernière Michel Imberti. Michel Imberti a été l'élève d'un psychologue français qui s'appelle Didier Anzu, qui a écrit un livre assez étonnant qui s'appelle Le Moi Pau. Et en vous écoutant, je pensais beaucoup à ça, je me disais, mais En fait, là, il y a quelque chose, c'est vrai, on n'a peut-être pas été au bout de tout ce que ça voulait dire, tout ça. Qu'est-ce que c'est l'idée de l'idée dans yeux, pour la résumer très très sommairement, hein. C'est l'idée qu'au fond, et c'est une vérité physiologique, en fait, quasiment, c'est que nous sommes une enveloppe. C'est-à-dire tous nos sens, notre toucher, c'est une enveloppe, l'enveloppe corporelle. Mais il dit, en fait, cette enveloppe, elle se prolonge. Elle se prolonge par le goût, avec les lèvres, ça arrive à la surface de la langue, donc c'est toujours notre enveloppe. Et il dit, notre rétine est encore une peau, c'est encore une goût d'enveloppe. Et notre oreille, avec la cochlée, c'est encore une peau aussi. Et c'est toujours cette idée d'enveloppe. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, ce serait la même structure fondamentale qui gère tout ça. Mais en fait, derrière cette enveloppe, derrière cette idée qu'effectivement, il y a une surface à chaque fois. Parce que ça, c'est évidemment très important. C'est-à-dire qu'on se perçoit comme un volume, mais en fait, tout ça, c'est une surface, c'est une enveloppe. Derrière ça, il y a quelque chose qui préempte de l'information et la transfère. Et c'est la même chose. Ce sont les mêmes réseaux nerveux. Enfin, c'est la même configuration nerveuse qui gère et qui transfère finalement l'information qui nous vient de cette enveloppe. Alors, l'enveloppe, évidemment, c'est le contact entre une intérieure et un extérieur. Mais c'est cette même texture nerveuse qui finalement fait le transfert. Et alors, en vous écoutant, encore une fois, je rapprochais ça d'une thèse récente de quelqu'un qui réfléchissait sur comment le numérique avait transformé l'art. La transition est très abrupte, mais un peu volontairement. Parce que, au fond, qu'est-ce qui se passe avec le numérique ? C'est que pour la première fois, on a effectivement pour tous les arts le même support, c'est le même transfert. C'est-à-dire que vous prenez une image, c'est du numérique, vous prenez du son, c'est du numérique. Et que donc, quelque part, il y a une communauté qui s'opère de fait, en fait. Il y a une différence fondamentale qui est au niveau de qu'est-ce qui est capté, parce que les capteurs ont des spécificités, ce que vous disiez, mais au fond, dès que le transfert est fait, que ce soit de manière nerveuse ou avec le digital, ben là, au fond, ça a la même allure, ça a la même enfin, voilà. Et à mon avis, on est très loin d'avoir fini de réfléchir à ça, parce que en vous écoutant, je pense que j'étais en train de penser à ça, de réfléchir sur tout ça, parce que se toucher, oui, voilà, c'est ça. Quoi, c'est
oui, oui, bien sûr. Bon, pour
Digit.
Pardon.
Digit.
Oui, oui, c'est ça. Pour revenir au terme, à tocar, la musique, toucher, il y a plein de termes en plus en musique. Bon, déjà cadence, donc tomber, lever, poser, et je pense que si on réfléchit encore, il y en a beaucoup.
Mais ça,
qui
c'est
relèvent
de la chironomie.
De là.
Chironomie, c'est-à-dire c'est le geste, le mouvement qui accompagne la musique. Mm-hmm. Il y a effectivement l'idée de cadence, l'idée de.
J'associe ça au toucher. Dans le, oui, bien sûr.
Toucher,
c'est vraiment le.
C'est un rapport concret au clavier. Et effectivement, oui. Parce que c'est quelque chose de concret. La toccata, c'est le moment où effectivement on établit ce contact qui est un contact très concret avec le clavier et qui est l'ordre du toucher, effectivement. C'est-à-dire qu'on fait sonner quelque chose qui passe par l'enveloppe, quoi. À un moment, c'est cette surface sensible, quoi. Le clavier, c'est quand même la restitution d'une surface sensible.
Oui, c'est un peu le toucher mouvement, le toucher exploratoire, peut-être, qui est mis en jeu.
Oui. Exactement.
Oui.
Et c'est une vraie sensation, je veux dire, quand vous êtes claveciniste ou organiste, parce qu'en plus, si vous voulez, à chaque fois, un organiste, par exemple, il se promène et il voit des orgues différents. Donc c'est un corps à corps, vraiment.
Oui.
Avec des sensations qui ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est...
Oui, je pense que cette manière de penser la musique est très liée à la manière de la jouer, à l'exécution même, parce que je pense que l'instrumentiste qui fait corps avec l'instrument met en œuvre cette faculté haptique de manière réelle, mais qui existe aussi de manière virtuelle. Donc je pense que c'est très lié au contact direct avec l'instrument. Et je pense aussi que l'écoute peut être envisagée comme une nouvelle énonciation. Donc du coup, ça serait une sorte de réénonciation de la musique qui, de ce point de vue, mettrait en œuvre aussi la gestualité du corps, le toucher. Donc Anzieu, si, tout à fait, je pense qu'il est dans la lignée de penseurs qui mettent en évidence le caractère tactile du proprioceptif. Toute la proprioceptivité serait construite à partir de la tactilité, parce que c'est des membranes qui sont effectivement touchées, qui sont... Donc, bien sûr, je ne l'ai pas cité, mais il fait tout à fait partie de cette tradition. Et puis, le numérique, ou la représentation visuelle du son, déjà, c'est justement en étudiant ça, enfin, en regardant ça de manière intuitive, que je me suis demandé s'il n'y avait pas un passage tactile obligé pour représenter visuellement le son. Et c'est une hypothèse, c'est l'hypothèse que j'essaie de développer, mais c'est justement en regardant les représentations visuelles sur ordinateur du son que je me suis dit peut-être que pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait une représentation tactile de l'ordre de la densité, de l'ordre de l'appréhension, de l'ordre de la dépréhension, etc. Donc je pense que le numérique peut mettre en évidence pas mal de ces complexes phénoménologiques qui se trouvent à l'œuvre dans l'interaction entre les langages. Voilà. Donc,
je voudrais. Alors, avant tout, j'ai trouvé ton exposé très, très cohérent et très convaincant aussi dans la prise de position que tu as énoncée du début. Je voudrais seulement te poser, dialoguer un petit peu. Peut-être tu as vu aujourd'hui, je parlais de gestes, donc je ne suis pas loin finalement de ta vision. Je voudrais seulement te proposer quelques questions qui peuvent éventuellement créer des différences ou des positions différentes. Alors, moi je parlais du geste, mais pas seulement du point de vue tactile ou haptique. Pourquoi ? Parce que je pense que le geste peut être aussi une expression visuelle, acoustique, etc. C'est-à-dire, je ne vais pas privilégier un sens sur les autres. Mais en tout cas, je voudrais te poser trois questions. Alors, trois questions, pardon. Alors, la première est sur vraiment la caractéristique de la toucher, parce que d'un côté, il y a cette idée d'établir des frontières. Et donc, tu as parlé, tu as bien souligné l'importance de la ligne, hein, du contour, etc. Mais il est vrai aussi que dans la description de la toucher, on peut trouver le problème de l'irritation, de la déstabilisation, finalement de la problématisation des visières. C'est-à-dire que la toucher, même dans la description d'Anzier, est le moment de la dissimulation. D'un procès de dissimulation, toujours difficile. Quelle est la frontière entre le moi cher et l'externe? Donc, je voudrais bien comprendre, dans l'équilibre un peu interne de ton parcours théorique, pourquoi superposer cette idée du contour de la ligne, étant donné que la toucher est en revanche un lieu de dissimulation problématique, de perméabilité, peut-être, etc. Et en revanche, la vue est plutôt mise à distance, il n'y a pas contamination. Et si on commence à regarder aussi l'aspect symbolique, hein, de sens, on peut voir que la toucher est plutôt l'idée de compromettre le corps, de construire une sorte de compromission, on peut dire compromission, une sorte de, en tout cas de perméabilité, de contamination éventuelle, et en revanche, d'autres sens sont plutôt liés à la distance, etc. La question de la, du rythme, là je partage totalement. Je voulais seulement suggérer la question que le rythme, la prosodie, est une forme de suspension de l'ancrage dans la relation entre expression et contenu. Il n'y a plus un ancrage stable. On peut trouver une forme d'irradiation, de continuité rythmique, même s'il y a un changement de matériaux. Et donc, on peut bien voir le rythme comme l'élément majeur, comme dire, de la traduction intersémiotique. On peut voir la constance d'un rythme, la reproduction d'un rythme, en passant en matière de l'expression et l'autre. Et à ce propos, donc je voudrais terminer la troisième question, un peu au remarque. Tu as décrit bien la question rythmique à partir du sujet, et donc comme une sorte de mobilisation du sujet, d'énergie du sujet qui active les mouvements dans le monde, etc. Mais il y a des descriptions, même chez Malvin, du fait que le rythme est plutôt quelque chose qui relève de la totalité de l'espace. Et si on regarde par exemple la conception du rythme chez Laban, dans la danse, on peut voir que Laban a dit finalement je dois concevoir immédiatement le geste du corps par rapport à la au caractère rythmique de l'espace qui est déjà là. Donc je dois construire une sorte de dialogue. L'énonciation est déjà, comme dire, du début, une sorte de co-énonciation. Dans la musique, il y a Wiedergrass qui a parlé de pan-rythmicité. Je suis très fatigué. Pan-rythmicité. C'est la même chose. C'est d'ailleurs même ce compositeur théoricien a parlé du fait qu'on ne peut pas instaurer un rythme, on ne peut pas proposer un rythme de manière individuelle, parce qu'il y a déjà une sorte de rythmicité de l'arrière-plan. Et donc, c'est plutôt l'idée d'établir une sorte de lien de synchronisation ou de différence, de dissimulation. Donc, c'est ça un peu la question sur la conceptualisation que nous avons aussi en sémiotique de la dénonciation. Est-ce que l'énonciation est un sujet individuel, une sorte de monade qui peut prendre l'initiative de la discursivisation ou de l'articulation du sens? Ou, en revanche, on a besoin de concevoir l'énonciation comme une sorte de réponse, de dialogue, d'ajustement, finalement, par rapport à d'autres épicentres d'énonciation qui sont déjà là. Et en musique, la réverbération, finalement, c'est déjà un système de co-énonciation, c'est-à-dire que l'espace commence à répéter, à reconstruire des propositions énonciatives. Et éloigné. C'est déjà un peu un reflet, un sorte de distinction entre le moi et un soi possible, un soi autre.
Oui. Donc d'abord, pourquoi je n'ai pas considéré le toucher comme irritation? Pourquoi je l'ai plus considéré comme un facteur d'homogénéisation? Parce que justement, lorsqu'il provoque ou il réagit à une irritation, on est plus dans la touche que j'ai définie comme étant à la limite de l'aptique. Moi, je définis l'aptique presque par une intentionnalité homogénéisante, si tu veux, du toucher. Sachant que le toucher peut aussi être l'hétérogénéité, l'irritation, etc. La déstructuration. Mais pour définir, puisque j'étais obligée de définir l'aptique dans le domaine plus vaste du tactile, j'ai exclu tout ce qui est déstructuration, irritation et déstabilisation pour me concentrer sur tout ce qui est homogénéisation, structuration. Et c'est pour ça que j'ai accordé une place primordiale à la ligne contour. justement, parce que c'est dans cette sorte d'intentionnalité d'homogénéisation qu'elle rejoint la faculté haptique. Voilà, et c'est là aussi qu'elle a une visée préhensive, en quelque sorte, la ligne contour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai exclu. De même que j'ai exclu à l'opposé de la touche, donc de la touche irritante, déstabilisante, la caresse, qui n'a pas une visée préhensive, elle prolonge juste le mouvement, le toucher en tant que mouvement, mais il n'y a pas de visée préhensive. Donc c'est ces deux limites-là que je me suis fixée pour parler de la petite.
La consonne et la voyelle.
Oui, c'est ça. Voilà.
J'ai un ami, Martin Liberté, qui a toute une théorie sur la musique, où effectivement il y a la percussion, et le son du tien, etc. C'est des choses, effectivement, on peut voir ça, c'est avec des catégories très simples. Bon, moi, Hélène, je vais conclure ici. Alors,